Je voudrais d'abord saluer messieurs, dames les élus. Alors, je ne sais pas quel est le protocole, mais je pense, Madame Buffet, je vais vous présenter comme vous êtes là. C'est plus simple, parce que bon, ben, je suis aussi humble que le nouveau pape. Monsieur Ries, maire de Strasbourg, est représenté par Madame Buffet, adjointe au maire. À côté d'elle, c'est Monsieur Loos, qui est vice-président de la région. Et à côté, Madame Schumann, conseillère municipale et conseillère CUS. Et puis, Monsieur Le Talec, conseiller général de notre quartier. Enfin, de notre secteur. Ça va au-delà du quartier. Vous avez déjà connaissance du sujet et je vous souhaite encore une fois la bienvenue. À côté de moi, quand même, Monsieur Béjean, le président de l'association de naturistes, Monsieur Boub, président des pêcheurs, mais pas les pêcheurs de qui. Les pêcheurs sont complexes. À côté de moi, Monsieur Jean-Daniel Braun, notre spécialiste qui a travaillé des heures et des heures pour élaborer nos répliques et nos réponses aux questions posées. Et je lui donne immédiatement la parole. Voilà. Tout juste la règle. Comme d'habitude dans une réunion publique, Jean-Daniel va vous présenter le sujet. Puis, bien entendu, la parole est à la salle et tout le monde pourra donc prendre la parole. Mais on laissera d'abord Jean-Daniel vous présenter la soirée. À tout à l'heure. J'ai oublié de saluer les présidents, j'en vois d'autres, les présidents des associations tout à l'heure, excusez-moi. Nous sommes très heureux que vous soyez venus à cette réunion et je m'excuse encore de ne pas vous avoir salué tout à l'heure.
Je réitère la bienvenue à tout le monde et notamment aux personnalités que je ne nommerai pas. Vous savez que pourquoi nous sommes réunis, c'est un sujet extrêmement technique. C'est très difficile à comprendre. J'ai passé effectivement un certain temps à essayer de comprendre. Je vais essayer d'être aussi simple et didactique que possible. Si quelqu'un ne comprend pas un terme que je vais employer, vous pouvez m'interrompre à tout moment, mais pas poser de questions, s'il vous plaît. On va garder les questions pour la fin. Voilà, vous avez ici le plan du port au pétrole. En rouge, ce sont les zones qui appartiennent aux différentes entreprises, qu'on appelle zones grises, sur lesquelles les entreprises peuvent déployer leur activité. Vous en avez 7, donc SESD1 et SESD2, qui sont des dépôts pétroliers, qui appartiennent à la même société que Ruby Terminal, qui est un dépôt de plus ou moins de déchets chimiques. À part ça, vous avez la société Bolloré, qui est également classée en zone Céveso. Proder, qui fournit de l'oxygène à nos voisins allemands, l'entreprise métallurgique. Et puis, vous avez Trédi, c'est le dernier né des entreprises Céveso du port. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Trédi a été déclaré Céveso suite au premier projet de PPRT qui est sorti fin 2009, début 2010, et qui prévoyait, comme vous allez le voir un peu plus tard, l'expropriation de toutes les entreprises qui n'étaient pas Seveso. Crédit n'étant pas Seveso, devait, d'après le projet qui avait été fait en 2009-2010, déménager. Fort de la nouvelle circulaire qui est parue en mai 2010, qui n'apportait strictement rien de neuf au niveau de l'élaboration du PPRT, mais qui rassemblait seulement l'ensemble des textes réglementaires, Trédi a été déclaré Seveso, et de cette façon, même si on avait appliqué le projet de 2009, Trédi n'aurait pas dû déménager. C'est un petit peu le premier tour de passe-passe auquel nous avons assisté. Donc les autres entreprises, le rond-point, déchetterie, CAP, vous les connaissez, vous connaissez le port. Suivante. Voilà, le port au pétrole de Strasbourg, le PPRT, fait suite à une loi de juillet 2003 qui a été prise après la catastrophe d'AZF à Toulouse. La suite. C'est un cadre méthodologique pour la politique de prévention des risques technologiques et naturels. C'est un cadre assez astreignant d'ailleurs. La loi fixe des objectifs ambitieux pour la prévention des risques technologiques majeurs, la rédaction des études de danger et la politique de maîtrise de l'urbanisation autour des sites. C'est la théorie, nous allons voir comment elle est appliquée. Les études de danger sont réalisées par les entreprises elles-mêmes. C'est un élément extrêmement important. Vous pensez bien que les entreprises n'ont pas envie d'augmenter les dangers qu'elles font courir à la population. On peut imaginer, par contre, qu'elles soient parfaitement honnêtes. Mais tout est ouvert. Et puis, l'administration doit en assurer la synthèse. Alors, là, c'est un autre paire de manches. L'administration doit d'abord être capable de comprendre les études de danger que fournissent les entreprises. Nous avons pu nous rendre compte, lors d'une réunion à l'ADREAL, la Direction régionale de l'équipement d'Alsace, que les ingénieurs chargés du contrôle et les ingénieurs qui rédigent les rapports au préfet n'étaient pas en mesure de nous expliquer un rapport extrêmement important qu'il avait signé et à la base duquel le préfet avait pris un arrêté. La méthodologie du projet de PPRT, donc chaque entreprise doit lister les phénomènes dangereux qui peuvent arriver sur son emprise. Il faut, pour chaque danger, définir le niveau d'intensité de l'effet en chaque point de la zone où le danger existe. Il faut ensuite définir la probabilité du phénomène dangereux. Là, c'est très strict, c'est très réglementé. Les règles du PPRT définissent très précisément comment on définit la probabilité du phénomène en fonction de l'accidentologie, on peut presque dire dans le monde entier. À partir de là, on établit un tableau d'aléas qui combine l'intensité des événements et leur probabilité. Le décret, le règlement, spécifie bien qu'il faut tenir compte de l'effet domino. Qu'est-ce que c'est qu'un effet domino ? C'est s'il y a un danger qui se produit dans une des entreprises et que la déflagration se propage, elle va rencontrer l'entreprise suivante, et par exemple, si c'est un feu, elle peut mettre le feu à l'entreprise suivante, etc. Comme un jeu de domino, quand un domino tombe, on fait tomber toute une rangée. Ceci est extrêmement important parce que nous sommes dans une zone où, en face de nous, pas très loin, il y a l'Allemagne. Alors, il faut savoir que l'effet domino s'arrête au milieu du Rhin. L'administration tire un rideau au milieu du Rhin et aucun effet de danger qui est au port au pétrole ne traverse le Rhin. Ça, c'est la théorie administrative. Comment est-ce qu'on définit les périmètres ? Donc, il faut identifier les zones d'effet pour chaque phénomène dangereux. Alors, ici, les spécifiés irréversibles, ce n'est pas uniquement les effets irréversibles, on verra ce que c'est qu'un effet irréversible, c'est tous les effets. On superpose les zones des divers effets de l'ensemble des entreprises. On identifie les courbes d'enveloppe, c'est-à-dire la partie extérieure où il y a des effets, c'est-à-dire c'est un cercle ou une parabole ou, dans lequel les effets peuvent se faire sentir. Alors voilà, les effets irréversibles sur l'homme correspondent à la persistance dans le temps d'une atteinte lésionnelle ou fonctionnelle consécutive à une exposition unique et de courte durée. Alors retenez bien cette définition, ça veut dire que si on se trouve dans la courbe d'enveloppe où il y a des effets irréversibles, la santé des gens est atteinte de façon irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous amener à l'hôpital et que vous sortirez de la même manière que vous étiez avant que le danger, que vous soyez exposé au danger. C'est vous serez atteint de manière irréversible. C'est le règlement, c'est pas moi qui le dis. Suivante. Alors ici vous avez le tableau officiel qui fait que la superposition entre la gravité du danger et la probabilité qu'il se produise permet de classer les zones, les surfaces, en fonction d'un tableau que vous avez ici. Donc l'intensité d'un accident, d'un effet, est classée de A à E. Alors oublions les cas A, B, C, parce que ceux-là, si aucune des entreprises ne présente des cas A, B, C, parce que c'est tellement dangereux qu'on arrêterait vraisemblablement l'entreprise. Les dangers sont de classe D ou E. La zone, l'effet très grave, c'est lorsque le cumul des classes de probabilité d'occurrence, c'est-à-dire la probabilité qu'un accident se produit, en un point donné, est supérieur à D. Ou bien, donc là c'est la zone TF, si 5 accidents ou 5 possibilités de danger se cumulent dans une zone et que ces 5 ont une probabilité E à D, on est en zone TF. Si c'est inférieur à 5E, c'est très technique, mais on va passer très rapidement, on est en F+, et puis de plus en plus, c'est moins, c'est-à-dire que si on n'a pas de... si on est supérieur à D ou inférieur à D, où il n'y a qu'un seul danger de cette classe, on est en danger faible. Suivant. Alors on en arrive à comment peut-on exclure un danger qu'on a détecté du PPRT. Alors on va prendre les textes réglementaires, c'est le plus simple. Les textes réglementaires disent que le phénomène dangereux de classe de probabilité la plus faible, c'est-à-dire E, parce que aucun danger de classe supérieure à E ne peut être exclu. Seuls les dangers de classe E peuvent être exclus du PPRT, à condition que cette classe repose sur une mesure de sécurité passive vis-à-vis de chacun des scénarios qui peut arriver. Ce n'est pas très important parce qu'on n'a pas, au moins dans notre cas, de possibilité de faire ces deux mesures de sécurité passive. Et là, maintenant, c'est très important. Sur au moins deux mesures techniques de sécurité pour chaque scénario, et qu'elles soient maintenues en cas de défaillance d'une mesure de sécurité technique ou organisationnelle. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait deux mesures totalement indépendantes qui empêchent le danger de se produire pour pouvoir l'exclure du PPRT. Suivant. L'administration, là, nous a joué au David Copperfield. On va prendre le premier risque qui avait été détecté d'ailleurs par les services préfectoraux, c'est l'UFCV par débordement de base. UVCE, ça veut dire mais ça veut dire un nuage non confiné, unconfined, voilà, cloud explosion. Unconfined vapor cloud explosion. Voilà. C'est donc un nuage qui s'échapperait d'une cuve, par exemple, non confiné, et qui se mettrait en vapeur et qui explose. C'est un danger extrêmement important. Ça, donc, c'est l'explosion d'un nuage à gaz l'air libre. Cette explosion crée un effet thermique et de surpression. Et une boule de feu, l'onde de surpression également, se déplace librement tout autour ou dans un sens en fonction du vent sur des distances importantes. Ce danger avait été détecté dès 2008 par le préfet qui avait prescrit à l'exploitant, en l'occurrence Ruby Stockage, de mettre en place dans un délai de 5 ans. En 2008, un délai de 5 ans, c'est-à-dire que le délai n'est pas encore écoulé. Au moins deux mesures de sécurité indépendantes supplémentaires pour satisfaire aux critères d'exclusion du PPRT. Il ne dit pas quelles mesures doivent être prises. Il dit qu'il faut prendre deux mesures indépendantes de façon à supprimer le risque du PPRT. Que fait l'entreprise? Elle installe deux systèmes de niveau, un système haut et un système très haut, et dit, voilà, j'ai deux systèmes, mais le malheur, c'est qu'ils ne sont pas indépendants. Puisque les deux systèmes agissent sur les pompes qui remplissent les cuves et sur les vannes. Donc, si un système essaye de déclencher l'arrêt des pompes et que le connecteur des pompes est collé, c'est pas le deuxième qui va arrêter. Donc il n'y a pas deux systèmes indépendants. Et ceci est tellement vrai qu'il y a eu un accident le 11 décembre 2005. C'est l'accident de Bunsfield. C'est répertorié par le Bureau d'analyse des risques et pollutions industrielles qui dit la conclusion de l'enquête sur cet accident, deux alarmes de niveau agissant sur le remplissage n'ont pas fonctionné. C'est bien, il y avait un premier niveau, l'arrêt s'est pas fait, un deuxième niveau, l'arrêt s'est pas fait puisqu'il devait alimenter les pompes et s'il y a un défaut. Donc ce risque, réglementairement, ne peut pas être exclu du PPRT. Pourtant, le PPRT, déjà en 2008, ne tenait pas compte de ce risque. C'est un des risques les plus importants. Mais par un tour de passe-passe, il a disparu. Un tour de passe-passe non réglementaire. Voilà le plan du projet qui a été établi en 2009-2010. Regardez bien, les activités dont Céveso sont en zone de mesure foncière. Vous avez ici la liste des équipements, le quai Jacuto, le giratoire, la déchetterie, le stade et le hall de la Carpe Haute, les jardins familiaux, une partie seulement d'ailleurs, et le projet de voirie lisiéresse de la Robertso. Très important, parce que une des manipulations de ce PPRT est destinée à permettre, à notre avis, la réalisation de la lisière est de la Robertso, qui conditionne en partie, mais en grande partie, les constructions, l'urbanisation des zones nord de la Robertso, puisque c'est le seul débouché possible d'une route qui irait vers le sud. Toujours en 2009-2010, on a les lotissements de la Carpe Haute. Il y avait une trentaine de maisons qui devaient être renforcées. Les habitats en zone FAI et cinétique lente qui étaient moins touchés. Le château de Pourtalès était en zone dangereuse, la zone verte. Et comme j'avais écrit, comme je le disais tout à l'heure, le potentiel foncier Mélanie Pourtalès ne pouvait pas être réalisé ou dans des conditions totalement inacceptables. La suite. Là, vous avez l'évolution entre 2009-2010 et aujourd'hui. Alors, vous allez voir, premièrement, 2, 4, 6, 7, 8 expropriations. On n'a plus besoin de les exproprier. Donc, on commence à comprendre pourquoi on essaye de faire disparaître des risques. Si on n'y a pas de risque, on n'a plus besoin d'exproprier. Exproprier, ça coûte, qui c'est qui paye ? L'État et les entreprises du port. Délaissement, c'est exactement la même chose. Le lotissement de la Carpe Haute, on fait beaucoup moins de travaux. Le château de Pourtalès est en cinétique lente, plus de travaux. Le potentiel foncier Mélanie Pourtalès qu'on ne pouvait pas exploiter, tout d'un coup on peut l'exploiter. Le quai Jacuto, là de toute façon on l'a fermé, il est fermé depuis des années, il devrait être fermé, paraît-il, enfin c'est la réalité, puisque il y a encore de la place par ici et puis là-bas vers le fond. Le Pourtalès, c'était un problème. Le potentiel foncier, c'est un plus gros problème. Le quai Jacuto, on n'en discute pas. Le giratoire, c'est ce qui est à côté de la déchetterie, à la descente du pont Pierre-Brousse. Eh bien, le pont Pierre-Brousse, il était en cul-de-sac. On ne pouvait plus faire la liaison interport, puisque on pouvait plus descendre du pont. Donc, tout ça, on peut dire que ça posait de gros problèmes aussi bien à l'administration qu'aux usagers du port. Le stade et le hall de la Carpe Haute devaient être déménagés, les jardins familiaux en partie déplacés, projet de voirie de lisière ne pouvait pas se faire, ou alors il fallait la décaler, c'était très compliqué. Le réseau cyclable, on pouvait le déplacer. Suivante. Alors on va voir comment on arrive à supprimer des risques. Il y a trois acteurs, c'est-à-dire le port au pétrole, l'État, la ville et la CUS, ont décidé que pour arriver à réduire le périmètre de danger, on allait faire une étude pour voir quelles mesures ou moyens supplémentaires dans les entreprises on pouvait faire pour réduire ces dangers. Cela partait d'un très bon sentiment. Cette étude, il y a eu un appel d'offres. Différentes sociétés d'études ont répondu. Et de manière quand même très étonnante, c'est la société qui a fait l'offre la plus chère qui a été retenue. Alors, on pouvait espérer que cette étude soit très sérieuse et utile. On peut dire qu'elle était sérieuse, puisque dans l'étude, on peut lire qu'en considérant un bras de chargement muni de deux sécurités, ça c'est très technique, mais enfin bon, c'est les deux sécurités dont je parlais tout à l'heure, le phénomène feu de nuage est réduit en classe E, donc le plus faible, et repose sur deux mesures de sécurité, l'une organisationnelle, l'autre technique. Mais Technip rajoute, l'exclusion du phénomène dangereux feu de nuage 5 minutes est empêchée par le fait que les deux mesures de sécurité reposent toutes les deux sur le même système d'arrêt pompe-barge. C'est exactement le même phénomène dont je parlais tout à fait au début. Eh bien, par un effet assez extraordinaire, le préfet, par un arrêté du 27 mars 2012, stipule que ces mesures doivent permettre l'exclusion du PPRT. Contrairement au règlement, puisque les règlements disent bien que si les deux mesures doivent être totalement distinctes. Donc on se trouve devant une infraction évidente d'une règle établie par l'État et que le préfet lui-même enfreint. L'ADIR a attaqué ce dossier, ces trois arrêtés auprès du préfet, au tribunal administratif en novembre 2012. Le tribunal administratif a donné 2 mois au préfet pour faire valoir ses contre-arguments. À ce jour, ça fait donc plus de 4 mois, le préfet n'a envoyé aucun contre-argument à notre mémoire. Suivant. Voilà ce qu'est devenu le PPRT aujourd'hui. Alors, vous voyez ici, c'est devenu très très pâle. Tout ça, on considère que on va faire un tout petit peu quelque chose, mais pas grand chose. La zone, ici, il n'y a plus aucun risque, tout ce qui est blanc ou très peu, à cinétique lente. Donc, voilà, les activités dont ces vaisseaux qui étaient en zone rouge foncée, mesures foncées, qui nécessitent des mesures foncières, c'est-à-dire le CFNR et ATIC, c'est-à-dire ici, ben, tout ça, c'est maintenant, on les déménage. Mais il n'y en a que 2 qu'on déménage. Avant, il y en avait 9. Les équipements, ben, le Kejakuto, comme dit celui-là, l'administration veut absolument nous le couper. Hein, c'est même pas à peine d'en discuter. Le giratoire, tout d'un coup, il est en bleu clair. Ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs. Vous allez le voir tout à l'heure. Il est en bleu et on va voir qu'est-ce qu'on a le droit de faire en bleu. La déchetterie en bleu clair également. Donc, on la laisse. Il n'y a plus de risque. Ou il y a des risques très limités et qui sont très lents. C'est-à-dire, s'il y a un accident, peut-être 1 heure après, il y aura des risques à la déchetterie. Donc, on a le temps de partir. Le stade et le hall de la Carpe Haute est également bleu clair, même topo. Les jardins familiaux, le projet de voirie lisière, on peut tout d'un coup le réaliser. On ne sait pas d'ailleurs quel danger a été enlevé pour passer de l'ancien au nouveau. Le lotissement de la Carpe Haute est beaucoup moins touché, les habitats. Le château de Pourtalès, il est en cinétique lente. Cinétique lente, ça veut dire que au bout d'une heure après un accident ou 2 heures après un accident, le château de Pourtalès sera touché. Donc on peut accepter qu'il y ait des manifestations au château de Pourtalès de moins de 100 personnes et que les 100 personnes, on pourra les déplacer dans le temps entre l'accident et où l'effet aura lieu au château de Pourtalès. Suivant. Voilà. Alors, par rapport à la carte que vous avez vue tout à l'heure, là, nous avons 2 cartes qui sont sorties de l'étude Technip. C'est pas moi qui les ai inventées. L'étude Technip est censée respecter les règlements. Vous voyez l'ancien. Donc, tout est fait confondu en juillet 2011. Et vous voyez le nouveau, avec les moyens de maîtrise des risques que Technip a proposé ou que l'Adréal a accepté. Quelle est la différence entre ces deux cartes? C'est vrai que les zones rouges ici sont moins importantes qu'ici. Pourquoi? Il faut dire que je ne suis pas un spécialiste des études de danger et qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Mais compte tenu de l'importance de ces zones, je n'ai pas poursuivi à fond la chose. Ils émettent quelques idées, à mon avis, qu'on pourrait contrer, mais enfin, acceptons-les. Mais ailleurs, les points importants. Les points importants, c'est l'écluse ici, le rond-point ici. Ils sont dans une zone bleue. Vous verrez tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire, cette zone bleue. Ici et là, est-ce que quelqu'un voit un changement? C'est exactement, ce sont exactement les mêmes risques que l'on conserve entre les deux. Donc entre 2009 et 2012, et où il y a eu éventuellement quelques mesures de maîtrise des risques supplémentaires, si on fait le PPRT selon les règles, d'après Technip, Technip sont des spécialistes, c'est une très très grosse société d'ingénierie pétrolière, il n'y a absolument aucune différence ici et au rond-point. Ces deux éléments qu'il faut garder en mémoire parce que ce sont deux repères que j'utilise. Oui, alors regardons ici. Ici, vous avez le port de Kehl. Ici, vous avez le port de Kehl. Donc, les effets du PPR, des risques traversent le Rhin et touchent le port de Kehl. Donc, l'effet domino, c'est bien que si un accident se produit ici, ou on va prendre le nouveau là, les effets se ressentent jusque dans le port de Kehl. C'est l'effet domino. Comment se fait-il que, à l'heure de l'Eurodistrict, on ait tracé au milieu du Rhin un rideau et que le risque ne se traverse pas? On avait déjà fait la même chose au temps de Tchernobyl, puisqu'on avait coupé le Rhin et que sur la rive droite, c'était radioactif et pas sur la rive gauche. Mais c'est pire. Dans la zone verte, il est interdit de circuler. Les dangers sont tels et instantanés s'il y a une explosion qu'il faut interdire de circuler. Mais est-ce qu'on peut interdire de circuler sur le Rhin? On a des traités internationaux qui obligent à laisser la circulation sur le Rhin. Donc, premier gros problème de ce PPRT, c'est que on ne peut pas le respecter. Le suivant. Voilà. Alors, on va regarder l'écluse ici et le rond-point, par exemple, là. Ceci est une carte du projet que nous présente l'administration. Vous voyez, ici, il y a un rideau. Ce qui se passe à droite, ça n'intéresse personne. Alors, regardons ce qu'ils écrivent. En zone bleu clair, B1, B2, B3. Je vous parlais des zones bleu clair tout à l'heure. Regardez ici, où est-ce qu'on est? En zone bleu clair. Les usages interdits. La circulation organisée des piétons ou cyclistes. Bien sûr que l'automobile, c'est pire, donc on n'en parle même pas, puisqu'on va fermer le quai Jacutto. Mais il y a un petit problème quand même. Ici, il y a une écluse. L'écluse, nous avons vérifié que les bateaux qui ont entre 100 et 300 personnes, séjournent dans l'écluse entre une demi-heure et une heure. Parfois, quand l'écluse est utilisée, les bateaux stationnent en amont ou en aval pour laisser écluser le premier bateau, et puis il y a un deuxième qui attend. Alors, comment se fait-il que la circulation organisée piéton ou cycliste, où tout rassemblement ou manifestation de nature a exposé un public supérieur à 100 personnes, pourrait être autorisé? Si quelqu'un a une explication, moi je ne la vois pas. Le stade de la Carpe Haute et le club canin pourront continuer leur activité, le stade étant ici, étant en partie d'ailleurs dans la zone bleue, et le club canin étant ici, il est également dans la zone bleue. Donc le projet, ben, ce qui nous embête, on n'en parle plus, et puis on autorise la circulation. Par contre, surtout, ne circulez pas sur le quai Jacques-Couteau. Ça, c'est interdit, ça, c'est très très grave. Suivante. Alors, sur les effets toxiques, on a un élément très très intéressant. L'effet toxique, c'est si on a dans une cuvette, en cas d'incendie dans une cuvette, puisque les citernes sont entourées de cuvettes qui retiennent les produits s'il y a un débordement, par exemple. Ou bien s'il y a l'incendie dans les bacs eux-mêmes, il y a des émissions de vapeur toxiques. Et pour le produit le plus dangereux qui est stocké chez Ruby Stockage, c'est-à-dire le monochlorobenzène, le nuage qui est produit par la combustion, se mélangeant avec l'air, l'humidité de l'air, crée de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique a une densité 3,2 fois celle de l'air. Donc, la gravité, normalement, fait descendre l'acide chlorhydrique. Et si vous inspirez, respirez de l'acide chlorhydrique, je pense que l'effet irréversible est évident. En 2007, il y a eu à la demande de Ruby Stockage, puisque c'est Ruby qui faisait son étude de danger, a fait faire une simulation de l'effet toxique par une société très connue, reconnue sur la place, qui s'appelle Socotec, qui est une filiale d'une société mondialement connue. Et le résultat de la simulation indique que le seuil d'effet irréversible, c'est un rayon de 245 mètres. Ça veut bien dire que autour de la cuve, dans un rayon de 245 mètres, quelqu'un qui se trouverait là, à ce moment-là, est menacé d'effets irréversibles. En 2008, l'ADREAL établit un rapport et indique même un SEI de 325 mètres. Et puis, tout d'un coup, en 2012, nous découvrons un rapport de l'ADREAL qui indique un SEI de 69 mètres. Donc, nous prenons rendez-vous avec l'ingénieur de l'ADREAL pour qu'il puisse nous expliquer comment est-ce qu'on passe de 325 à 69 sans qu'aucune mesure de maîtrise de risque ne soit prise, puisqu'on ne voit pas quelle mesure de risque pouvait être prise. Eh bien, l'ingénieur de l'ADREAL nous dit « Ben non, je ne sais pas ». Il avait signé un rapport, mais incapable d'expliquer. « Ah, il faudrait que j'étudie les études de risque. » Je lui demande si elle comprend la simulation. « Non, non, elle ne connaît pas le programme de simulation. » Enfin, aucune réponse. Bon. Et à la suite de cela, Madame Alloire, qui est la responsable de Ruby Stockage et la présidente des usagers du port au pétrole, nous invite à une réunion pour nous expliquer comment on passe de 325 à 60 mètres. À cette réunion participent également deux ingénieurs de Socotec qui nous expliquent qu'ils ont refait une simulation en 2012 et qu'il n'y a plus aucune retombée au sol. Donc le SEI est devenu zéro. que tout en dessous de 15 mètres, il ne se passe rien. Bizarre. Alors il nous donne un extrait du rapport de 2007, oui, l'étude de Socotec de 2007, et un autre rapport de 2012. Bon, je ne suis pas suffisamment compétent pour, à l'instant, réagir là-dessus, et je prends les documents et je commence à rechercher. Socotec nous avait écrit une lettre aussi avec un certain nombre de choses, et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne collent pas, mais je n'arrivais pas très bien à trouver le pourquoi ni le comment. Donc on a commencé par écrire à monsieur le préfet en lui disant, voilà, on ne comprend pas, la DRIR n'est pas capable de nous expliquer. Nous, ce qu'on demande, c'est une expertise indépendante du dossier pour voir s'ils ont raison ou pas. Le préfet nous répond que les ingénieurs de la DRIR, aux différents niveaux de la DREAL, sont parfaitement compétents et qu'il n'y a pas du tout besoin d'une expertise indépendante. Donc, ils sont partis, ils sont juges, personne d'autre ne peut comprendre ce qui se passe. Et puis, on essaye de rentrer un peu dans le sujet. Et je m'aperçois, à ma grande stupéfaction, que Socotec, qui nous dit, ah oui, mais l'évolution, c'est une évolution des modes de calcul, sans nous donner d'explication. Que Socotec a, en 2007, utilisé une méthode pour déterminer ce SEI, qui est celle qui est contenue dans une instruction de l'INERIS, l'Institut National d'Études des Risques, qui stipule très exactement comment il faut faire les calculs de dispersion. Mais Socotec nous dit qu'à ce moment-là, il ne connaissait pas INERIS Oméga 16, qui est cette instruction de l'INERIS. Or, Oméga 16 avait été publié sur le web 14 mois avant la simulation de Socotec et environ plus de deux ans était mise en vigueur depuis plus de deux ans. Donc, si Socotec n'est pas compétent pour connaître les instructions des organismes gouvernementaux, c'est un peu dommage et un peu triste. Et il nous dit, ben oui, maintenant en 2012, au contraire, on a pris connaissance d'Oméga 16 et on applique Oméga 16. Eh bien, pas du tout, c'est exactement l'inverse. En 2007, Socotec a appliqué les instructions de la règle de l'INERIS Oméga 16. Et en 2012, c'est-à-dire que ils ont pris les polluants en haut de la fumée de l'incendie, et ils ont étudié la dispersion des polluants. Par contre, en 2012, ils ont fait une autre méthode que celle préconisée et imposée, puisque c'est une norme par l'INERIS. Ils ont dit pas du tout, quand ça flamme, s'il y a une flamme, on va absorber beaucoup, beaucoup d'air, et il faut étudier la dispersion au sommet des flammes contenant l'air. Il y a 98% d'air, il n'y a plus que 2% de polluants. Donc, il n'y a plus de pollution au sol. C'est quand même un peu jeune comme explication. Mais par contre, le danger d'effet toxique est supprimé du PPRT. Donc, messieurs, dames, soyez tranquilles, ceux qui habitent à Roberto, ceux qui habitent notamment Carpe Haute ou rue de l'Afrique, tout à côté du port, il n'y a plus d'effet toxique, puisque la DREAL l'a déclaré. La suivante. Oui. Alors voilà, si on applique maintenant le règlement, interdiction du transit Kejakuto et sur la digue, ça c'est ce qu'on veut nous faire absorber pour bien nous montrer que le PPRT, c'est sérieux, on règle, on protège les populations. Mais comme on l'a vu, si on applique le règlement, il faut interdire la navigation sur le Rhin. Il faut, dans l'écluse, interdire la circulation des bateaux. Il faut, au rond-point, interdire la circulation. Donc il y a bien deux poids, deux mesures, puisque le projet prévoit d'interdire le transit au Kejakuto. Par contre, il permettra la navigation du Rhin parce qu'il n'a pas la possibilité de l'interdire. Dans l'écluse, il n'interdit pas la circulation parce que qu'est-ce qu'on va faire de Croisy-Alsace, par exemple, Croisy-Europe. S'il ne peut plus utiliser l'écluse, il fait un détour monumental par l'écluse sud. Si on interdit la circulation sur le rond-point, ben, la liaison interport ne peut pas se faire, la voie est ne peut pas, la voie de Lisière ne peut pas être réalisée, on ne peut pas urbaniser. Donc ça pose beaucoup trop de problèmes. Donc on a interdit le quai Jacuto, mais le reste on autorise. La suite. Donc nous, ce que nous demandons depuis toujours, nous l'avons demandé trois fois au préfet, par trois courriers différents, avec les deux associations qui sont à nos côtés, et à trois reprises, le préfet nous a répondu pas du tout. Pas besoin d'expertise. Nous, on est compétents. Nous, on sait faire. Donc, croyez-nous. La suivante. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. L'enquête publique se tient du 25 février jusqu'au 27 mars. Le dossier réglementaire est déposé au centre administratif et à la Roberto, où vous pouvez faire vos commentaires. Votre participation nous semble absolument indispensable. Je peux vous informer aussi que jeudi prochain, jeudi 21 mars, à 19h, à la salle de la Bourse, les commissaires organisent une réunion publique. C'est la force, le nombre de gens parmi vous et parmi vos amis, ceux qui ne sont pas là ce soir, qui pourront participer à cette réunion, donner leur avis directement au commissaire enquêteur, qui fera la force de notre action. Alors on peut aussi poser pourquoi cette enquête ne se déroule pas dans tout l'Eurodistrict. Suivante. Voilà, donc nous demandons, ce que nous demandons, c'est une expertise indépendante. Je crois qu'elle est indispensable. Nous ne sommes pas, moi je n'ai pas autour de moi, nous n'avons pas suffisamment de connaissances techniques. J'ai essayé de trouver des ingénieurs concernés et deux ont abandonné en cours de route parce que c'était un peu trop compliqué, ils n'avaient pas suffisamment de temps. Nous demandons simplement une expertise indépendante. Peut-être que je fais tout à fait erreur. Je veux bien faire mon mea culpa, mais au moins que des gens compétents, indépendants, nous disent « Vous faites erreur ». C'est ce que fait l'administration et réglementaire. Je doute qu'ils y arrivent, mais enfin, admettons que ce soit possible. Contrairement aux affirmations de l'administration, l'utilisation actuelle du quai Jacuto peut continuer. Parce que dans les règlements du PPRT, l'accès de la population aux lieux de loisirs, enfin ça c'est pas dans le règlement que c'est l'accès aux lieux de loisirs, mais lorsque un accès est il n'y a pas d'alternative et que c'est d'intérêt public, on peut le retirer de l'interdiction du PPRT. Or, nous estimons que l'accès aux zones de loisirs sont des mesures qui peuvent justifier l'intérêt public. Et d'ailleurs, la ville, comme la CUS, a pris un arrêté disant qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas arrêter la circulation. Qu'il faut trouver d'autres solutions. Donc, il montre bien l'intérêt public majeur qu'il y a à autoriser la circulation. La suite, je crois que c'est la dernière. Donc, maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps et je suis à votre disposition pour essayer de répondre à vos questions.